faut d'abord apprendre sa langue pour connaître un peuple étranger, pour comprendre ses mœurs et pénétrer son génie. De même, la langue juridique est la première enveloppe du droit qu'il faut nécessairement traverser pour aborder l'étude de son contenu. Ainsi s'exprimait Henri Capitan dans la préface du vocabulaire juridique de 1936, première édition de ce dictionnaire juridique. C'est tout naturellement que j'introduirai la présentation du cadre légal de la vie privée à l'hôpital en me reportant à la définition de la vie privée dans cet ouvrage, dans sa 8e édition, que les juristes appellent communément aujourd'hui le Cornu, en référence à M. Gérard Cornu, directeur de publication, qui a repris le travail réalisé par Henri Capitan. La vie privée se voit définie comme la sphère d'intimité de chacun. Par opposition à la vie publique, la vie privée est ce qui, dans la vie de chacun, ne regarde personne d'autre que lui et ses intimes. Un vaste sujet passionnant qui fit émerger, pour la juriste que je suis, des envies d'envoler lyrique, envie qu'il a fallu maîtriser dans la perspective d'une présentation du cadre légal en quelques minutes, et la nécessité de ce fil conducteur ainsi rédigé. Aussi est-il nécessaire de préciser, pour dissiper toute ambiguïté, de façon liminaire l'ancrage de mon propos qui ne peut être exhaustif en sa présentation du cadre légal. En droit français, les droits de la personnalité attribués à toute personne physique impliquent le droit au respect de l'intégrité physique, de l'intégrité orale, de la vie privée et de la pensée. La reconnaissance de l'existence du respect de la vie privée bénéficie d'un corpus juridique qui s'inscrit dans le Code civil, le Code pénal, Code de la santé publique, et pour ne se cantonner, une fois de plus, qu'à ces trois codes. Chacun a droit au respect de sa vie privée, dispose du non moins célèbre article 9 du Code civil. Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Précise quant à lui l'article 1110-4 du Code de la santé publique issu de la loi numéro 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Je citerai également, inévitablement, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Mais aussi, et enfin, la Convention européenne des droits de l'homme dispose, en son article 8, paragraphe 1, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » En son article 8, paragraphe 2, « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la société ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Apparaît de facto le souci d'équité, d'égalité, amenant la recherche d'un équilibre. C'est une question d'équilibre. Quelle reconnaissance juridique de la vie privée en établissement de santé ? La vie privée peut, en ses composantes, renvoyer, sur le plan d'identité, au respect de sa personne, de son histoire, de sa culture, de son libre exercice de ses droits civiques, du respect de ses croyances religieuses, de la possibilité d'exercer le culte de son choix, sur le plan des sentiments, à la vie affective, à la vie sociale, à la vie sexuelle, sur le plan des informations médicales, à la confidentialité, au secret professionnel, sur le plan de la prise en charge institutionnelle, à l'intimité, aux visites, aux correspondances, communications téléphoniques, au droit à l'image, à la libre administration de ses ressources, à la libre disposition de ses biens personnels. Une thématique passionnante qui amena des excursions littéraires et juridiques fort intéressantes. Je délimiterai ainsi les contours du sujet du respect de la vie privée à la reconnaissance du droit au respect du domicile, du droit à l'intimité, du secret des correspondances. La question de la chambre du patient résonne de facto lorsque l'on parle de vie privée. Une affirmation, la chambre du patient est un domicile privé. Une affirmation récurrente, une origine et un nécessaire retour aux sources jurisprudentielles pour une meilleure compréhension. Une jurisprudence des faits. Des journalistes vêtus de la tenue professionnelle de soignants ont pénétré dans la chambre d'une patiente, Chantal Nobel, afin de la photographier sur l'hôpital, À l'époque où sur les ondes passaient en boucle la musique de la célèbre série, toujours de l'époque, parce que quand je raconte ça à mes étudiants, ils ne connaissent pas du tout, en fait, c'est vraiment, c'est là où on vit, avec les acteurs principaux, Chantal Nobel et Sacha Distel, au sujet desquels la relation illégitime, au sens moral et non au sens juridique, suscitait le plus vif intérêt de la presse. Les photographies donc, de l'actrice avaient été prises par des journalistes et publiées. À cette occasion, les juges de la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 mars 1986, ont apporté les précisions suivantes. Une chambre d'hôpital, occupée par un malade, constitue pour lui, au sens de l'ancien article 184 du Code pénal, un domicile protégé en tant que tel par la loi, qu'il occupe à titre temporaire, mais certain et privatif, et où, à partir du moment où cette chambre est affectée, il a le droit, sous la seule réserve des nécessités du service, de se dire chez lui, et notamment d'être défendu de la curiosité publique. L'action attentant en justice amena la consécration jurisprudentielle de domicile privé, qui emporte ainsi des conséquences directes. Le patient peut évoluer dans l'espace intime de sa chambre, si tant est qu'il s'y joue seul. La question de l'intimité sera prise en compte au quotidien dans le cadre de l'aménagement des locaux, de l'organisation et fonctionnement du service. Ce fut d'ailleurs un des critères du premier manuel de certification en sanation de 1999. La prise en charge d'une personne en établissement de soins doit questionner la sphère de la vie privée dans l'espace collectif. Le droit à la vie privée, envisagé dans un établissement de soins, renvoie plus justement un droit à la protection de la vie privée. La jurisprudence a ainsi reconnu le devoir pour l'hôpital d'assurer la protection des patients hospitalisés. Le directeur doit prendre les dispositions nécessaires à cette fin et ne pas permettre à des personnes jugées indésirables de pénétrer dans sa chambre. La protection concerne l'être et le paraître. L'être, la préservation de la confidentialité, le paraître, l'image. Le droit à l'image n'existe pas en tant que tel, apparaissant comme une composante du droit au respect de la vie privée, mise en lumière par la jurisprudence. Il se décline en institution de soins, en interdiction de la reproduction de l'image d'une personne dans un lieu privé, sans son accord, et en la protection des personnes, bien qu'évoluant dans certains lieux publics, en vertu du secret professionnel. Je rappellerai présentement les pouvoirs de police administrative que confère l'article S6143-7 du Code de la Santé publique au directeur d'hôpital. Par pouvoir de police administrative, il faut entendre le bon ordre, la sécurité, la tranquillité, la salubrité. Le droit à la protection de la vie privée en établissement de santé, toujours une question d'équilibre. Quel cadre légal dans un établissement de santé mentale s'agissant des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement? Pour citer Gilles Devers, libre et responsable sans doute, tant que l'on a toute sa tête, tant que l'on est dans le langage du Code civil, sain d'esprit. Le plein exercice des droits se voit ainsi remis en cause. Les soins psychiatriques sans consentement remettent en cause les libertés individuelles, directement la liberté d'aller et de venir, indirectement un certain nombre d'autres droits fondamentaux. Liberté de correspondance, intimité de la vie privée. La limitation des droits exige qu'elle soit légitime et proportionnée. La décision QPC du 26 octobre 2010 rappelle les principes et limites connus de tous. L'hospitalisation sous contrainte est une atteinte portée à l'exercice des libertés individuelles et pour rester légitime, elle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux objectifs de la prise en charge. La récente décision QPC du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, qui entre parenthèses annonce une révision partielle de la loi numéro 2011-803 au 1er octobre 2013, cette décision QPC rappelle quant à elle la conciliation à opérer des principes à valeur constitutionnelle entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public. Le là est donné et mis en balance des principes constitutionnels relatifs aux droits et aux libertés de même valeur. D'une part, la protection de la santé, la protection de l'ordre public. D'autre part, la liberté personnelle, protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est encore une question d'équilibre plus périlleux entre la liberté et les droits. La loi doit ainsi concilier ses principes aux fins de les équilibrer. Le droit serait une règle que chacun applique parce qu'il le ressent juste. La restriction des libertés en établissement de santé mentale découle d'un motif médical préoccupé par la protection de la personne lorsque son comportement peut la mettre en danger, lui nuire, la desservir. Mais également la protection de la personne vis-à-vis des tiers, de son entourage, au-delà même du droit à l'image. Il est une temporalité dans la restriction, dans la prise de décision impactant les libertés individuelles. Que dire alors lorsque l'on ajoute à la difficulté en introduisant la maladie, le trouble mental? La personne souffrant de troubles mentaux est une personne vulnérable que le droit protège. Pour emprunter les propos de François Villela, elle est un sujet reconnu en droit en sa qualité de personne et non pour ses seules vulnérabilités. Intervient dans l'équilibre des droits et libertés garantis par la Constitution la protection du sujet, la problématique de la capacité du sujet souffrant de troubles mentaux dans une situation d'exception de privation de liberté. Un équilibre dans la prise de décision relative à des questionnements concernant le respect de la vie privée. S'agissant de la santé mentale, et toujours de manière inexhaustive, la particularité de la situation a amené le législateur à préciser certains droits. Certains droits fondamentaux qu'on retrouvait dans l'article 1311-3 de la loi de 90 ont repris quasi en son intégralité en ajoutant d'autres droits nouveaux. Le sujet peut-il consentir valablement alors que sa volonté est infléchie par l'angoisse et corrompue par l'altération de ses facultés? Quelle effectivité de l'exercice des droits liés au mode d'expression du patient? L'intégralité des termes introductifs du diartique 1311-3 se doit d'être citée. Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres 2 et 3 du présent titre, on appréciera accessoirement la lisibilité du texte. Donc, lorsque les personnes souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins sans consentement, les restrictions à l'exercice de ces libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En tout état de cause, elle dispose du droit, donc dans la limitation du sujet qui nous préoccupe, d'émettre ou de recevoir des courriers, d'exercer son droit de vote, de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. La délimitation du sujet exigé par le temps amène à clôturer mon propos. Le respect de la vie privée doit aussi inspirer les modes d'organisation, les configurations architecturales, le règlement interne, équilibre des droits et devoirs de chacun, les modes d'intervention des professionnels dans le souci de parvenir au plein épanouissement de la personne dans sa vie quotidienne, au sein de l'établissement, et ce, sans porter préjudice à la vie en collectivité. Ces quelques lignes sont extraites du texte des recommandations de l'ANAES sur le thème suivant: liberté d'aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et obligation de soins et de sécurité. Au terme de ces quelques mots, il me reste à préciser la ligne permanente: la recherche d'un équilibre dans la protection de la vie privée et la vie en collectivité dans un établissement de santé mentale au regard de ce qui est dit. Vie privée à l'hôpital, ce qui est traversé d'une préoccupation éthique et la manière d'aborder les choses. Permettez-moi, pour conclure de manière définitive, de citer Kant: agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps, comme une fin et jamais simplement comme un moyen.